Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kia Badou et Morgane Guerriec en direct de Washington. Bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui de ce mercredi 13 mars 2019. Il est 19h30 en temps universel et au sommaire ce soir.
Inondations au Mozambique et au Malawi, on compte une centaine de morts et 800 000 sinistrés.
Au Niger, 33 terroristes de Boko Haram ont été tués dans le bassin du lac Tchad, d'après l'armée.
Nous ferons le point sur le crash du Boeing 737 en Éthiopie. Le président américain Donald Trump a annoncé ce soir que tous les Boeing 735 MAX 8 et MAX 9 seront cloués au sol des États-Unis.
Nous allons émettre une ordonnance d'interdiction pour immobiliser tous les 737 MAX 8 et 737 MAX 9, ainsi que tous les avions associés à cette ligne.
Toujours aux États-Unis, publication aujourd'hui du rapport annuel du Département d'État sur les droits de l'homme dans le monde.
La Minute Éco et les sports, juste après ce journal.
L'armée nigérienne a tué 33 djihadistes de Boko Haram lors d'une vaste opération de ratissage dans la zone du lac Tchad, a indiqué le ministère de la Défense, Nathalie Barge.
Côté ami, aucune perte n'est à déplorer. Côté ennemi, 33 terroristes tués, précise le communiqué lu à la télévision d'État. Selon le ministère de la Défense, cette offensive est lancée depuis samedi dernier, soit au lendemain d'une violente attaque djihadiste au cours de laquelle 7 gendarmes ont été tués près de Guédkérou, dans la région de Diffa, voisine du nord-est du Nigeria. Le 16 février, 7 soldats nigériens avaient déjà été tués au cours d'une attaque à Chetimawangu, près de la frontière nigériane. Fin 2018, l'armée du Niger avait mené une offensive d'envergure terrestre et aérienne, tuant plus de 200 terroristes dans le bassin du lac Tchad, un repère des islamistes nigérians, selon le ministère de la Défense.
Au Nigeria, un immeuble de 4 étages abritant une école s'est effondré à Lagos, faisant de nombreuses victimes, dont des enfants, selon un journaliste et des témoins. Au moins 20 personnes ont été sorties de l'immeuble, selon un officier de police, mais aucun bilan officiel n'est encore disponible.
Les pluies torrentielles au Mozambique et au Malawi ont fait une centaine de morts et plus de 800 000 sinistrés. Il s'agit d'un nouveau bilan établi par les autorités locales et les Nations Unies. Jacques Aristide.
Au Mozambique, au moins 66 personnes ont été tuées par les inondations dans le nord et le centre. Près de 6 000 habitations ont été détruites, plus de 140 000 personnes sinistrées et plus d'une centaine de milliers d'hectares de récoltes inondées. Le gouvernement a décrété l'alerte rouge en raison de la poursuite des précipitations et de l'arrivée du cyclone tropical Idai. Près d'1,6 million de personnes vivent dans les zones qui pourraient être frappées par les pluies et les vents violents. Les autorités ont ordonné l'évacuation des régions côtières. Les inondations ont également provoqué ces derniers jours la mort de 45 personnes et laissé plus de 700 000 personnes sans abri dans le sud du Malawi voisin. D'après le dernier décompte ce mercredi, les services météo du pays ont aussi prévenu que de nouvelles pluies étaient attendues de jeudi à dimanche dans les régions déjà sinistrées. Comme le reste de l'Afrique australe, le Mozambique et le Malawi, deux des pays les plus pauvres du monde, sont soumis régulièrement à de longues périodes de sécheresse, alternant avec des épisodes de pluie dévastateurs.
Le gynécologue congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a dénoncé les attaques perpétrées contre des centres de traitement d'Ebola dans l'est de la RDC, ainsi que le déni de l'épidémie au sein d'une partie de la population. Déclarée le 1er août, la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a tué 584 personnes pour 927 cas, a indiqué le ministère congolais de la Santé dans son dernier bulletin quotidien. Bien publié ce soir.
Tout premier président français à se rendre au Kenya, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi à Nairobi qu'il devait conclure d'ici à jeudi une série de contrats pour des groupes français dans le pays d'un total de 3 milliards d'euros, dont une concession autoroutière. Après Djibouti, Addis Abeba, Nairobi est la dernière étape de la tournée est-africaine d'Emmanuel Macron, venu jouer la carte française face à la montée en puissance de la Chine.
Tension au Botswana, le Parti démocratique du Botswana au pouvoir a rappelé à l'ordre pour indiscipline 32 de ses membres qui avaient assisté à un discours de l'ancien président Hadiké, le secrétaire général du parti.
Au Soudan, le nouveau Premier ministre a dévoilé ce mercredi la liste de son gouvernement qui va avoir la lourde tâche de s'atteler à la grave crise économique qui a provoqué des manifestations demandant le départ du président Omar El-Béchir. Il s'agit du troisième gouvernement à être formé en moins de 2 ans.
En Algérie, la mobilisation contre Abdelaziz Bouteflika ne faiblit pas. Enseignants et élèves du secondaire ont à leur tour manifesté ce mercredi contre l'extension du 4e mandat du président. De son côté, le nouveau vice-premier ministre, Ramtane Lamra, affirme que le président algérien n'a pas reporté la présidentielle et prolongé de fait son mandat pour rester au pouvoir, mais parce que le scrutin était source de division des Algériens.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Allemagne a décliné l'offre d'analyser les boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé dimanche en Éthiopie. Pendant ce temps, le Canada et les États-Unis ont décidé de clouer ce type d'appareil au sol. Yacouba Ouedraogo.
Le président américain Donald Trump a annoncé ce soir que tous les Boeing 737 MAX 8 et MAX 9 seront cloués au sol aux États-Unis. « La sécurité des Américains et de tous les passagers est notre priorité absolue », a dit Trump. Cette décision intervient après celle du Canada, qui a aussi décidé de clouer au sol le Boeing 737. Par ailleurs, le bureau d'enquête sur les accidents aéronautiques allemands a affirmé ne pas avoir les moyens techniques d'examiner les boîtes noires du Boeing 737 MAX 8. D'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche. Plus tôt, un porte-parole d'Ethiopian Airlines avait indiqué qu'elle serait envoyée en Europe dans un pays qui n'avait pas encore été choisi. Le crash qui a fait 157 morts est le deuxième en moins de 6 mois d'un Boeing 737 MAX 8 après celui d'octobre dernier de la compagnie indonésienne Lion Air qui a fait 189 morts.
Fusillade dans une école de Suzano au Brésil. 2 adolescents ont tué 6 personnes avant de se suicider près de Sao Paulo. D'après des médias brésiliens, 5 enfants et 1 employé de l'établissement ont péri dans l'attaque.
Rapport américain sur les pratiques des droits de l'homme en 2018. Le département d'État dresse un tableau sombre des violations et des abus commis dans le monde, en particulier dans les pays comme le Venezuela, l'Iran et la Chine. Les précisions d'Éric Maniera-Kiza.
Au Venezuela, le secrétaire d'État Mike Pompeo parle des assassinats extrajudiciaires, de l'étouffement de la liberté d'expression et des restrictions politiques. Il souligne également des problèmes de corruption généralisée et d'impunité. La situation sur le terrain se détériore, dit-il, arguant que les conditions humanitaires sont tragiques. Des gens meurent de faim et d'autres ne peuvent pas obtenir de médicaments, affirme le chef de la diplomatie américaine. Au sujet de l'Iran, le rapport cite notamment la détention de l'avocate Nasrin Sotoudeh, précisant que les droits de l'homme se sont détériorés dans plusieurs domaines clés. Washington envisage aussi d'imposer des sanctions aux autorités chinoises responsables d'atteinte aux droits des Ouïghours au Xinjiang. 800 000 à plus de 2 millions de Ouïghours auraient été arrêtés arbitrairement. Ces musulmans d'ethnie kazakh et d'autres sont envoyés dans des camps de détention destinés à effacer leurs identités religieuses et ethniques, selon le rapport. Enfin, le département d'État dénonce d'autres problèmes dans le monde. Exécution sans procès, meurtre et disparition forcée, conditions de détention mettant en danger la vie, de même qu'atteinte illicite à la vie privée, restrictions sévères à la liberté d'expression, la presse et Internet.
Aux États-Unis toujours, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump a été condamné mercredi à 40 mois de prison supplémentaire après une première peine de 47 mois la semaine dernière, soit 7 ans et demi au total pour des malversations débusquées dans le cadre de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne électorale américaine de 2016.
En Syrie, les djihadistes retranchés dans le dernier réduit du groupe État islamique ont lancé une contre-offensive et une série d'attaques suicides. Mais les forces démocratiques syriennes, soutenues par Washington, assurent que la fin du califat est proche au lendemain de la reddition de 3000 combattants islamistes.
Brexit, les députés rejettent un Brexit sans accord.
Le Venezuela, paralysé depuis 5 jours par une gigantesque panne de courant, la Chine propose son aide technique pour redémarrer le système. Le président Nicolas Maduro a imputé cette panne géante à des attaques fomentées par les États-Unis.
Les aborigènes, populations autochtones d'Australie, spoliées de leurs terres, devraient être indemnisées. C'est ce qu'a précisé la Haute Cour d'Australie.
Et on termine sur une nouvelle insolite. Des habitants du village de Villa Ramiel, dans le nord-ouest de l'Espagne, ont reçu des enveloppes remplies d'argent, 50, 70, voire 100 euros, sans raison apparente. Le généreux donateur demeure inconnu.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
La Minute Éco présentée par Nani Talani.
Le Kenya a adopté une nouvelle loi sur la répartition des revenus issus des activités pétrolières de la région du Turkana. Ainsi, 20% des recettes pétrolières seront désormais allouées au gouvernement local, alors que les communautés vivant à proximité des sites pétroliers percevront 5% de ses recettes. L'État central en percevra 75%. La nouvelle législation ne peut être révisée que dans 10 ans. Le leader angolais des télécommunications Unitel est désormais partenaire du Forum économique mondial. La Tribune a publié qu'Unitel devient ainsi le premier groupe de l'Angola à rejoindre le cercle des entreprises africaines ayant ce statut, dont le Nigérian Dangote Group ou Ecobank. Terminons cette minute éco avec l'allemand Volkswagen qui a annoncé aujourd'hui vouloir supprimer jusqu'à 7000 emplois d'ici 2023. La société justifie ses mesures par le coût de l'électrification des voitures et de la conduite autonome. En raison de l'automatisation croissante des tâches de routine, il y aura besoin de moins de postes dans l'administration et cette évolution pourra être absorbée par des accords de départ anticipés. En parallèle, la compagnie veut créer environ 2000 postes dans le développement de logiciels et l'électronique. Volkswagen emploie près de 665 000 personnes dans le monde, dont près de 50 000 dans les secteurs administratifs concernés.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Suite et fin des huitièmes de finale, retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, Lyon du Burkinabé Bertrand Traoré et de l'Ivoirien Maxwell Cornet misent sur son leader Nabil Fekir pour surprendre le Barça de Lionel Messi au Camp Nou à 20h temps universel. À l'aller, le club français a su résister aux vagues catalanes 0-0. Dans l'autre rencontre de ce soir, le trio d'attaquants de Liverpool, Firmino, Mané, Salah, est attendu dans l'Alliance Arena du Bayern Munich. En tête de la Bundesliga, le Bayern vise une huitième qualification consécutive en huitième de finale de Ligue des Champions, compétition qu'il convoite depuis son dernier sacre européen en 2013.
L'UEFA a ouvert une enquête disciplinaire sur Neymar.
Oui, cette enquête vise la star du PSG concernant ses vives critiques à l'encontre de l'arbitrage lors de l'élimination de son club en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. C'est une honte, ils mettent quatre gars qui ne comprennent rien au foot pour revoir le ralenti, qu'ils aillent se faire foutre, a écrit le Brésilien sur les réseaux sociaux après recours à la vidéo pour accorder un pénalty à Manchester United, vainqueur 3-1. Les sanctions peuvent prendre la forme d'une amende ou d'une suspension pour des matchs la saison prochaine.
Sur le continent, le Bénin fera face au Togo sans ses seniors.
Oui, le sélectionneur des écureuils, Michel Dussuyer, a communiqué sa liste de 23 joueurs retenus pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. On note l'absence des cadres comme Stéphane Sessegnon, Cécile Almeida et Michael Poté, tous suspendus. À l'inverse, quatre nouveaux joueurs sont appelés pour la première fois. Il s'agit de l'attaquant Yannick Aguémon, le milieu de terrain Rodrigue Kossi du club africain et les locaux shérifs Dine Papo et Patrick Segamé des Buffles. Actuellement deuxième du groupe D, le Bénin joue sa qualification à domicile face au Togo le 24 mars prochain.
Basketball pour finir, on connaît les confrontations de l'élite 8 de la FIBA Africa.
Oui, on aura un duel entre les clubs tunisiens de l'Étoile Sportive de Rades, qui a dominé le groupe B à Cotonou, et la JS Kaouran, arrivée seconde du groupe A à Rabat. Champion d'Afrique en titre, l'AS Salé du Maroc sera opposé au Civil Defender du Nigeria. Gros match en perspective entre Al Ahly et Soumoua d'Égypte dans un autre duel 100% national. Enfin, le match Petro de Luanda et Primeiro Agosto vaudra son pesant d'or. Ces matchs de l'élite 8 se joueront en aller-retour du 22 mars au 14 avril 2019.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerriec et Ekia Bagdou. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Au Bénin, les derniers développements de l'actualité politique semblent mettre en évidence un malaise au sein des partis qui soutiennent le président Patrice Talon. Tout est parti d'un document brandi par le président de l'Assemblée et qui mettrait à nu une supercherie entre ces différentes formations politiques et la Commission électorale nationale autonome, la CENA. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
Impossible d'envisager des élections législatives sans l'opposition, en témoigne la récente descente de celle-ci dans les rues de Cotonou pour tirer la sonnette d'alarme. C'est dans ce branle-bas que le parti du président de l'Assemblée nationale, le PRD, demande à la commission d'annuler les récépissés délivrés au Bloc républicain et l'Union progressiste officiellement annoncée pour les législatives pour supercherie. Conséquence, Adrien Roumedi, pour avoir eu en sa possession des documents confidentiels, sera convoqué à la brigade criminelle. Une convocation qu'il a purement et simplement boycotté.
Vous dites qu'il y a une convocation. Chacun fait son travail. Il y a une convocation. Elle n'a rien à voir avec le travail qui m'a été confié. On ne peut pas à la fois me demander de faire le travail et puis ce travail et puis me convoquer. Donc ça n'a rien à voir.
Pour Ernesto d'Almeida, enseignant de profession, accuser une autorité de la trempe du leader du PRD est un faux débat.
Si on veut véritablement des élections transparentes, moi je crois que rien ne gêne même que les différentes formations politiques qui sont appelées à compétir, que l'une puisse avoir copie des dossiers de l'autre pour amener les autres à corriger un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on cache à qui?
L'un des membres de la Sénat et fils du président Adrien Rungedi est cependant pointé du doigt comme étant celui qui a porté l'information en dehors des cadres de l'institution. Une allégation que rejette la commission en charge du scrutin législatif.
Les équipes qui ont été mises en place par la Sénat ont travaillé dans le cadre de la recherche des candidatures et tout le travail qu'ils ont fait est protégé. Aucun membre des équipes, aucun cadre de la Sénat ne dispose donc des documents qu'ils ont manipulés.
Dans le rang des partis accusés, on crie à la supercherie et à une volonté manifeste du président de l'Assemblée nationale à ralentir le processus électoral en cours. Jean-Michel Abimbola, député de la majorité présidentielle.
Nous sommes particulièrement étonnés par les documents que nous avons. Nous interrogeons de savoir si ce ne sont pas des faux qui sont produits pour la circonstance.
L'immunité parlementaire dont jouit le président de l'Assemblée nationale serait l'une des raisons de son absence à la brigade criminelle. Pour Moïse Korra, Adrien Rungedi devrait se présenter même si cette convocation n'est pas opportune.
Le rendez-vous de la brigade criminelle a toute sa valeur, a toute sa légalité. Parce que dès qu'on vous reproche quelque chose, on est en droit de vous interpeller pour mieux comprendre, pour que vous ayez l'occasion de vous justifier.
Autant de tractations qui laissent entrevoir un éventuel report des élections législatives prévues pour le 28 avril 2019. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans ce Washington Forum, la situation en Algérie. Après des semaines de manifestations, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat. Il a reporté sine die l'élection présidentielle du 18 avril et entend se maintenir au pouvoir d'ici là. Les manifestants rejettent toute prolongation de son mandat. Manœuvre ou véritable retrait du président algérien, cette transition politique va-t-elle satisfaire l'aspiration du peuple qui, pour succéder à Abdelaziz Bouteflika, nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Les États-Unis apportent leur soutien à la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Le sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines, Tibor Nage, est arrivé dans la région ce mercredi. De Goma, la correspondance de Charlie Kasereka.
Les sous-secrétaires des États-Unis pour les affaires africaines étaient accompagnés de l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Il a offert plus de 1800 tonnes de nourriture et un lot de 434 mètres cubes d'équipements de protection pour les équipes médicales qui interviennent dans la riposte contre Ebola à Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Les vivres doivent atteindre les bénéficiaires dans les prochains mois, a promis le directeur du programme alimentaire mondial à Goma, M. Claude Jibida.
Le menu qui est ici répond aux besoins des gens sur le terrain. D'abord, d'abord du maïs, du riz, des légumineuses, de l'huile, du sel. Mais aussi, c'est un menu qui correspond aux besoins nutritionnels des gens. Même jusque pour les enfants, il y a des denrées spécifiques qui sont prévues.
L'épidémie a déjà tué au moins 584 personnes. L'ambassadeur des États-Unis en RDC reste rassurant pour l'élimination de cette maladie. Mike Eimer.
Les États-Unis est compromis avec le gouvernement congolais de l'aider, de soutenir les efforts contre l'Ebola. J'ai l'occasion de viager à Butembo avec le chef de Centers for Disease Control, que c'est possible aussi à travailler avec les communautés. Mais nous sommes à faire tout ça que c'est possible pour contrôler cette situation d'Ebola. Et c'est important de savoir que les États-Unis est compromis avec tous les problèmes de la santé pour l'améliorer au Congo. J'avais discuté avec le nouveau président, Félix Tshisekedi, comment les États-Unis peuvent soutenir les efforts pour améliorer la santé au Congo.
La lutte contre Ebola doit être globale et non seulement médicale, et nécessite aussi une logistique conséquente, a affirmé le sous-secrétaire d'État américain qui promet d'intéresser les pays voisins dans la riposte, Tibor Pitenadje.
Nous avons mobilisé les préparations aux pays voisins parce que Ebola, ce n'est reconnu pas les frontières entre les pays. Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda. So well, Ebola is not just a medical problem. It's also a food problem.
Ebola n'est pas seulement un problème médical, c'est aussi un problème alimentaire, de transport, un problème social et culturel. Vous ne faites aucun bien d'aborder le problème médical si le patient ne va pas avoir de la nourriture. Je tiens également à remercier les personnes impliquées à aider les malades.
Ces lots de plus de 1 800 tonnes de nourriture et matériel de protection seront remis aux bénéficiaires d'ici la fin du mois, promet le directeur du programme alimentaire mondial. L'EPAM est l'une des organisations avec lesquelles le gouvernement américain travaille pour la sécurité alimentaire et sanitaire en RDC. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Alors que les députés britanniques se prononcent à nouveau ce mercredi soir sur le Brexit, cette sortie de l'Union européenne, des observateurs estiment que le Royaume-Uni est au bord du précipice. Le pays est sommé par les Européens de définir enfin ses choix pour l'avenir. Pour un éclairage, Jacques Aristide a joint John Henley, grand reporter au journal anglais The Guardian.
Elle est certainement affaiblie, mais pour l'instant, c'était beaucoup trop tôt. Pour dire que ces jours sont comptés pour l'instant. Il y aura deux votes supplémentaires cette semaine, donc un pour savoir si les députés veulent oui ou non un no deal, donc un sorti sans accord. Et ensuite, jeudi soir, il y aura de nouveau un vote sur une possible extension ou prolongation de la période de l'article 50. L'article 50, c'est les 2 années de négociations qui permettent à un pays de sortir de l'Union européenne. On saura un petit peu plus à la fin de ces deux votes, mais pour l'instant, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs options qui restent ouvertes avant qu'on commence à parler de la fin de la carrière de Theresa May.
Mais d'après vous, quels sont les scénarios encore envisageables ?
Je pense que la première possibilité, ce serait que Theresa May cherche à parler pour la première fois, plus ou moins, vraiment sérieusement avec l'opposition, avec le Parti travailliste et les autres partis d'opposition, sur un éventuel accord sur un Brexit à la norvégienne, comme on l'appelle, c'est-à-dire un Brexit qui laisserait la Grande-Bretagne beaucoup plus proche, plus près de l'Union européenne que le Brexit envisagé par les Brexiteurs. Mais le problème avec cette approche, c'est que ça diviserait encore plus le Parti conservateur. Et un Parti conservateur divisé amènerait, pourrait amener sans doute à de nouvelles élections qui pourraient, à leur tour, donc être gagné par l'opposition. Donc ça, c'est une option compliquée pour Madame May à envisager. Également, ça c'est pareil, je pense, pour un deuxième référendum. Troisième option, qui me semble plutôt possible, en fait, ou au moins plausible, ce serait en fait que Madame May reviendra dans la Chambre des communes, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais elle pourrait tout à fait revenir avec ce même deal.
Quel est le sentiment général dans le pays? Que disent les Britanniques, le citoyen lambda?
Écoutez, le citoyen lambda, il en a tout simplement marre de tout ça. Il ne comprend pas pourquoi ça prend autant de temps. Le sentiment du public par rapport au Brexit a changé, mais pas énormément. Par contre, les entreprises, elles sont furieuses. Elles parlent d'irresponsabilité totale de la part du gouvernement, d'une incertitude qui rend leur business quasiment ingérable. Et plus vite ce processus de Brexit sera fini, plus contents ils seront.
Le journal britannique John Hayley, joint à Londres.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président Donald Trump a annoncé que tous les Boeing 737 MAX 8 et 9 vont être immédiatement cloués au sol ici aux États-Unis. Il faut dire que le gouvernement américain était sous pression depuis le crash dimanche du Boeing d'Ethiopian Airlines qui avait fait plus de 150 morts. Avec nous en studio pour en parler, Timothée Donongmaï.
Oui, Morgan, suite à cet accident de l'appareil d'Ethiopian, de nombreux pays ont ordonné l'arrêt de l'exploitation des Boeing 737 MAX 8 et 9. À leur tour, les États-Unis leur ont emboîté le pas ce mercredi, une mesure d'urgence annoncée par le président Trump.
Airlines have been all notified. Airlines are...
Toutes les compagnies aériennes ont été notifiées et toutes sont d'accord avec cette décision. La sécurité des Américains et celle de tout le monde est notre préoccupation primordiale, a expliqué Donald Trump. Les États-Unis sont le pays le plus sûr en matière de transport aérien et nous voulons maintenir cette réputation, a ajouté le chef de l'exécutif américain en assurant que Boeing est une compagnie formidable qui travaille dur pour détecter le problème et entraîner le crash de deux Boeing 737 MAX en l'espace de 6 mois et y trouver solution. La décision de clouer au sol les Boeing 737 MAX 8 et 9 est une mesure de précaution qui permettra de mener des enquêtes et d'examiner les données des boîtes noires de l'appareil éthiopien ainsi que les communications de l'équipage, a fait savoir dans un communiqué la Federal Aviation Administration, l'agence fédérale américaine en charge de l'aviation civile. Le patron de cette agence a dit qu'il ignore la durée de cette mesure, mais il a révélé aujourd'hui que les boîtes noires de l'avion d'Ethiopian Airlines seront envoyées en France.
Mais alors Tim, pourquoi les États-Unis agissent-ils maintenant?
Eh bien Morgan, la question a fait l'objet d'un vigoureux débat ici aux États-Unis. Eh bien, le fait est que plus de 40 pays du monde, notamment l'ensemble de ceux de l'Union européenne, ont décidé de clouer au sol les Boeing 737 MAX, l'un des tout derniers pays à joindre ce mouvement est le voisin du Nord, le Canada. La décision américaine a suivi. Il faut dire que des liens très étroits unissent les systèmes aériens américains et canadiens, si bien qu'une décision dans un pays affecte forcément. Alors, il faut dire, Morgan, que certaines compagnies américaines avaient pris les devants en décidant volontairement de clouer au sol leurs appareils 737 MAX. C'est le cas d'American Airlines qui exploite 24 de ses aéronefs et qui a annoncé en début de journée être en train de travailler d'arrache-pied pour placer ses passagers sur d'autres types d'avions.
Merci Timothée Donongmaï.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumami, à la console Zourob Altaïm, à la présentation Eki Abadou et Morgane Guériec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.